RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec Yoann Durand que j'ai le plaisir de retrouver. Salut Odu.
Salut mon pote, salut à tous, bah ça
alors,
va?
Comment ça va?
Ben requinqué, hein, tu sais, après les vacances, t'es plein de boost, plein d'énergie, plein de projets.
Bon, les vacances en mode sportif professionnel, quoi, des courtes vacances.
Exactement, ouais. Exactement. Tu peux jamais vraiment lâcher la soupape parce que... Après, c'est compliqué les reprises, hein, on va en parler, mais vrai que c'est une période délicate.
Alors que nous, oui, on peut couper 4 semaines.
Oui, mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Exactement. Et ce sera la clé de l'épisode du jour. Une grande saison démarre pour RMC Running, on est ravis de vous retrouver. On sera présent à l'UTMB la semaine prochaine. Yoann Durand sera là. Venez faire des selfies avec lui à Chamonix. De jeudi à dimanche, n'hésitez pas. On sera bien présent, donc on vous tiendra informé de tout ce qui va se passer, les nombreux épisodes qui seront enregistrés. Je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien sur les réseaux sociaux. On a passé la barre des 10 000 sur Strava. On continue de grandir sur Instagram. Et abonnez-vous à 21 000 abonnés sur Instagram et abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Comme ça, dès qu'un épisode est dispo, vous pouvez l'écouter. L'épisode du jour, il est très simple, Yoann. On s'est dit, on va faire tout simplement comment réussir sa rentrée running. C'est la rentrée scolaire. On est enfin heureux de lâcher les enfants, rendre les enfants aux maîtresses. Comme ça, on sera tranquille pour s'entraîner. C'est un peu l'idée. On a convoqué des spécialistes qui vont nous aider à bien préparer votre rentrée. On va recevoir Fred Belouze, notre ami coach du Stade Français, qui va vous parler un peu renfo. Évidemment, on l'avait reçu il y a quelques semaines pour parler de l'ouvrage qu'il a sorti. Et puis, on sera également avec Alice Michel. Alice, qui est pas loin de toi, elle est en direct de Font-Romeu aussi. Elle fait partie des Zumwalt Runners et surtout, elle est nutritionniste. Donc, elle donnera les conseils nutrition pour adopter les bonnes pratiques dès la rentrée. On aura également Alban Pellegrin qui viendra nous faire un clin d'œil parce qu'il lance un magnifique défi à partir du 1er septembre. Un Tour de France à travers les 4 points cardinaux. Voilà, 72 marathon en 72 jours, un défi complètement fou qu'il nous racontera. Et puis un bon plan en fin d'épisode en lien avec nos amis du TRC. On convoque tous nos amis en fait, alors en fait, c'est un peu l'idée. Charles Perrault sera là, il va nous expliquer ce qu'il met en place avec New Balance, le Speed Tour, un Tour de France pour découvrir les nouveautés New Balance. Il y aura d'ailleurs une paire de chaussures à gagner. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
RMC Running.
Et j'accueille donc Fred Belouze qui est à mes côtés. Salut Fred.
Salut Benoît, comment vas-tu?
Bah écoute, t'as l'air en forme, t'es bronzé.
Bah écoute, ouais, puis moi avec ma grande chevelure, je prends vite le soleil, donc ça se voit tout de suite, j'en profite.
Il y a une surface plus grande pour les coups de soleil.
Exactement.
Ah oui. Ça c'est sûr.
Faut mettre la crème.
Ça c'est sûr. On met de la crème sur le crâne aussi. Oui,
on met de la crème, oui. Je mets surtout une casquette moi, c'est encore plus pratique que la crème.
T'as bien raison. Et on est ravis de retrouver Alice Michel également, qui est pas très loin donc de Yoann Durand, en direct de Font-Romeu. Salut Alice.
Salut tout le monde, pas loin de Yoann Durand à Font-Romeu cette année. Ouais.
Et ben voilà, magnifique, en famille en plus, donc tu passeras le bonjour à toute la petite famille. On vous remercie vraiment d'être là. Bah, déjà, démarrons par cette carte postale Font-Romeu, Alice et Yoann. Là, c'est vraiment, on en parlait avec Fred avant le début de l'épisode, mais c'est le carrefour des coureurs. Là, entre pro, amateur, entre course à pied, triathlon et toutes les disciplines, c'est un sacré melting pot là, Yodu, j'imagine.
Ouais, alors moi je viens d'arriver, hein. Je suis arrivé il y a quelques jours, donc j'ai pas pu encore croiser tout le monde, mais effectivement là le mois d'août c'est chargé, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a les championnats du monde, donc tu as des athlètes de haut niveau, hein, mais pas que français, qui préparent les championnats du monde à Tokyo qui auront lieu du 13 au 21 septembre, donc là ils sont dans la dernière ligne droite de préparation, il y en a beaucoup qui vont redescendre dans les jours qui arrivent pour terminer leur petit cycle de préparation en bas et pas prendre trop de risques et partir assez tôt à Tokyo. Et après, il y a beaucoup d'amateurs qui profitent de leurs vacances pour poser des jours de congé, pour venir s'entraîner, pour préparer soit le marathon de Berlin, soit d'autres compètes comme ça. Et c'est vrai que ça fait du gros monde. Il y a beaucoup de coureurs, même étrangers. Il y a beaucoup de triathlètes. Hein, il y a encore Léo Berger, Cassandre Beaugrand qui sont là. Ouais. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde et ce qui permet de jamais s'entraîner seul et de toujours avoir un petit groupe parce qu'on connaît forcément toujours quelqu'un dans le coin. Ouais.
Parce que quand tu es coureur amateur, parfois tu fais un peu le malin sur tes chemins à toi, tu vois, tu es autour du lac du Bois de Boulogne, il est midi, il n'y a pas grand monde, tu peux envoyer et tu ne te fais pas doubler. Là, non. Alice, c'est plus délicat à cette période de l'année. Là, tu dois avoir quelques avions passer à côté, quoi, j'imagine.
Bah là, c'est vrai que on était sur la piste mardi matin. Là, il y a vraiment tout le monde. C'est le rassemblement de ceux qui vont faire justement les championnats du monde en septembre. Et puis le dimanche à Matmal, pareil, on recroise les mêmes personnes en sortie longue. Et c'est vrai qu'il y a des Olympiens au mètre carré à Font-Romeu en ce moment.
C'est génial parce que
pas mal de monde. Et, Alice, mais c'est trop bien.
Toi, t'es plutôt en mode vacances. D'ailleurs, j'imagine, c'est un stage que vous faites avec ton club des Zumbolt Runners. Certains sont venus. C'est plutôt comme ça que vous le prenez. Vous partagez vacances et passion.
C'est vrai
passion,
que
en fait.
Ouais. Ça fait 3-4 étés là qu'on vient sur Font-Romeu et bon, après on trouve toujours une course à faire en septembre pour quand même profiter du stage. Mais c'est vrai que c'est un peu des vacances en même temps. On se retrouve et tout, donc c'est quand même bonne ambiance et puis on profite aussi de voir plein de monde s'entraîner, voir les différentes séances et tout. C'est vrai que c'est toujours plaisant. Nous on va faire les championnats de France de semi-marathon là en septembre.
Ouais.
Donc c'est quand même un bel objectif, mais bon, c'est pas les championnats du monde à Tokyo non plus quoi.
Ouais, mais c'est bien. Il y a un enjeu quand même pour vous, ouais. Et vous êtes quand même en mode préparation. Il y a des athlètes du Stade français à Font-Romeu ou pas, Fred?
Non, pas du tout. Eux, ils reprennent tranquillement. les échéances sont un peu plus lointaines. Donc, ouais, pour nous, il n'y avait pas forcément d'intérêt à être à Font-Romeu.
Ah, c'est tôt, là.
Et en plus, il n'y avait aucune com à choper, du coup, vu que tous les Olympiens sont là.
Ah,
donc,
ouais,
on est resté dans notre coin tranquillement.
Ah, ça, c'est sûr que ce n'est pas l'endroit pour aller chercher un com et un record sur un segment. Là, il vaut mieux
c'est
pas
mort.
Le faire. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, allez écouter l'épisode qu'on a sorti avec Dorian jeudi hein, sur sa préparation du marathon de Sydney. Il partage l'entraînement, notamment avec Jimmy Gressier, donc il a la chance d'être avec des champions lui aussi pour préparer la suite de son magnifique défi. Allons-y sur le thème de la journée, donc réussir sa rentrée running, c'est la question qu'on va tous se poser. On va basculer sur la deuxième partie de la saison. Johan Durand, évidemment, ça tient compte de la planification qu'on a prévue. Mmh. Et quel va être l'objectif qu'on va se fixer? Est-ce que c'est du court? Est-ce que c'est du mi-court? Est-ce que c'est du long avec du marathon? Pourquoi pas? Quels sont les premiers conseils qu'on peut donner avant d'aborder les spécificités renfo et ensuite nutrition, Yodu, les principaux conseils qu'on peut donner déjà?
Bah, déjà, comme l'a dit Fred, la première chose à faire, c'est de ne pas venir à Font-Romeu pour reprendre et se tirer la bourre avec des mecs plus forts que soi. Ouais.
Ça, c'est sûr.
Les premières semaines en reprise, effectivement, il faut les faire tranquillement à la maison. Il faut que ça soit une reprise en douceur où tu t'entraînes. Bah, je dis, ça dépend de chaque coureur, mais je dirais 2, 3, 4 séances par semaine, surtout si tu as fait zéro activité pendant tes vacances, que tu as complètement coupé la course à pied. Il faut que ça soit, tu reprennes par les bases, par des footings très faciles de 20-30 minutes tranquillement, puis progressivement tu vas allonger la durée. Il faut juste réhabituer le corps à l'effort, mais sans le forcer, et ça quand même pendant plusieurs semaines, parce que c'est les premières semaines, c'est là où les petites douleurs vont se réveiller. Donc si au bout de d'une semaine de reprise tu fais déjà 10 fois 1000 sur le tartan avec tes carbones aux pieds, c'est le meilleur moyen pour se blesser, parce que ton corps il est pas assez solide pour encaisser la charge de travail. Et c'est là où on va parler de toute la partie renfo. C'est quand même pour moi la base de renforcer son corps avant de travailler dessus. Et pour moi, voilà, il faut juste faire des footings en endurance fondamentale pendant presque 2 semaines, associé justement avec beaucoup de renforcement. Et puis après, il y a aussi en fonction de comment tu rentres de tes vacances.
Ben oui,
tu vois, on va en parler avec Alice, mais si tu reviens avec 5 kilos de trop, la première chose à faire avant de vouloir faire des fractionnés et se dire « Ah, je courais sur telle vitesse il y a 15 jours, je veux courir sur les mêmes allures », non, ça, c'est pas possible. Aller trop vite, trop tôt, c'est pas possible. Il faut faire un point, déjà, savoir, voilà, un point avec sa balance et savoir qu'est-ce que j'ai fait de mes vacances et voilà, faire quelque chose de progressif, quoi.
Fred, tu n'es pas seulement un spécialiste de renfo, tu es un coach d'athlètes au Stade français sur le groupe élite hein, des coureurs de très bon niveau. La première séance, à la rentrée en septembre, tu amènes la balance, tu la mets au bord de la piste et tu pèses les athlètes, comment ça se passe?
Non, justement, j'évite la balance parce que je ne suis pas trop un entraîneur qui veut trop fixer sur le poids des athlètes. On sait qu'ils y font attention, donc je ne veux pas accentuer parce que ça peut avoir des impacts négatifs, notamment sur les publics féminins, mais pas que. Donc, généralement, les athlètes savent où ils en sont et ils reviennent naturellement à leur poids de forme, comme on dit. Et après, l'idée, de toute façon, c'est plus on va s'entraîner. Généralement, on va retrouver une hygiène de vie parce qu'on va retrouver un cadre, on va dire, professionnel, social, qui est un peu plus cohérent avec l'entraînement. Donc du coup, là-dessus, je les laisse tranquilles. Et pour rebondir sur ce que disait Johan, c'est on reprend effectivement très doucement et puis on reprend en essayant, et c'est ça qui est le plus difficile pour les athlètes, c'est de couper avec tous les repères qu'ils ont pu avoir avant et coupure,
ça,
et notamment les repères d'allure.
Parce que
même un footing en endurance, c'est plus le même après 3 semaines de coupure que quand on était en fin de saison ou dans son prime en pleine saison. Donc, même ça, et ça, c'est certainement le plus difficile. Moi, c'est la seule période de l'année où je fixe vraiment les allures en fonction du cardio. Sinon, je travaille vraiment en minutes ou au kilo ou en kilomètre heure. Ouais. Et là, c'est vraiment une période de l'année où je dis, mettez votre haute cardio et vous respectez vos zones, et vous n'allez pas plus vite. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est la seule période où je me sers du cardio pour cadrer les allures d'entraînement.
Ouais, parce qu'on a tous déjà ressenti ça, et Alice, tu vas pouvoir le confirmer. Quand on reprend après une période un peu plus légère en termes d'entraînement, on se dit, allez, je vais faire un peu d'allure marathon, et on a le cardio qui est déjà haut comme sur un 10 km. Et là, on se dit, mais c'est pas possible d'avoir perdu autant, quoi. C'est dingue, cette sensation, Alice.
Ouais, non, mais c'est sûr que quand on coupe, les premières semaines pour revenir, elles sont plus compliquées, mais c'est aussi important d'avoir ces phases de... Justement, pour être en pic de forme, il faut aussi, par moment, faire des bonnes coupures pour derrière pouvoir remonter progressivement la pente. Parce que si on est tout le temps au taquet, en fait, on peut pas, quoi... On peut pas à force, donc ces moments de moins bien font partie aussi des pics de forme qui vont arriver par la suite et des objectifs que les athlètes vont se fixer derrière pour l'hiver, pour leur saison hivernale. Quoi.
Chaque cas est un peu différent, mais il y en a qui prennent un peu de poids et qui vraiment limitent l'activité physique pendant l'été. On pratique malgré tout un sport qui est difficile, qui est exigeant et qui fait aussi maigrir, hein, parce que c'est vrai que c'est assez c'est contraignant, la course à pied c'est difficile et puis forcément c'est un sacré effort physique. Quel serait le premier conseil que tu donnerais, toi Alice, à ceux qui ont pris 1 ou 2 kilos pendant l'été, qui veulent le perdre pour retrouver un niveau de performance correct? Ça serait de se surveiller dès la rentrée ou de laisser une perte de poids petit à petit et de ne pas faire plus d'efforts que ça?
Bah, pour moi, c'est vraiment laisser petit à petit, comme disait Yodu tout à l'heure, c'est pas trop vite, trop tôt à l'entraînement. Ouais. En nutrition, c'est pareil, c'est pas trop d'efforts d'un coup dès qu'on revient chez soi après les vacances d'été à se dire là, je suis drastique d'un coup. Ouais. Pour moi, ça tient pas sur le long terme, mais il faut vraiment y aller progressivement en même temps que les entraînements vont revenir, en même temps que la préparation va revenir, le renforcement, etc., qui va aussi refaire de la masse musculaire, donc va engendrer aussi métabolisme de repos qui va brûler plus que quand on a moins de masse musculaire. Donc c'est vrai, faire les efforts petit à petit sans d'un coup se dire là, d'un coup, je revois toute ma nutrition et je fais tous les efforts nécessaires. Enfin, faut y aller sur le long terme, voir où sont les objectifs et mettre petit à petit revenir dans son poids de forme et à son niveau auquel on était avant l'été, quoi.
Sur les premières semaines, Fred, tu fixes un protocole, tu évites les zones d'allure, justement le seuil, l'allure 10K, 5K, le fractionné court, ou non, tu intègres un peu tout dès le début quand même?
Alors, je dirais que pour moi, il y a deux phases. Il y a une première phase, comme l'a dit Johan, où vraiment on a 2 voire même 3 semaines suivant les profils, où ça va être que de l'endurance, voire sur certains footings, 5 lignes droites en fin de footing, vraiment cool, enfin un peu déroulé pour faire remonter. Et après, pour moi, un deuxième bloc où là, on va plus travailler ce que les gens maintenant appellent le tempo seuil, donc entre 80 et 80.
Rien, la SV1, SV2, Johan, il m'écrit les allures noir sur blanc, sinon je capte rien.
Voilà, en gros, entre 80 et 85%, plus ce que moi, à mon époque, on appelait l'endurance active, chaque époque a un peu ses termes. Mais voilà, et encore sur un bloc de 3 semaines, et du coup, 3 plus 3, on arrive à 6, 1,5 mois, et après, on remet vraiment de l'intensité. Pour moi, ça me semble le bon chemin. Hein. Je sais qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, mais vraiment bien reconstituer la caisse, le foncier, avant d'aller plus haut en intensité.
Mais concrètement, est-ce que tu mettrais un peu de séance de 30-30 par exemple sur les premières semaines, ou vraiment ça tu évites et tu laisses pour la troisième phase finalement?
Alors moi j'évite, moi j'en fais pas, mais je sais que ça fait partie d'autres protocoles. Hein. Je sais qu'il y a une école, notamment en France, qui est très... On fait ces 3 semaines vraiment de reprise cool, puis après on recommence par la haute intensité avant de revenir à du foncier vraiment volume. Moi j'ai plutôt le fonctionnement inverse, la très haute intensité vraiment au bout de 6 semaines, parce que Voilà, histoire que tout se soit bien réglé, que l'athlète ait repris ses repères avec la course. On en a parlé avec Alice par rapport aussi à son poids de forme. Tout un tas de choses qui font qu'on va pouvoir se montrer de plus en plus exigeant. Et pour le répéter une troisième fois, comme le disait Johan, pas trop vite, pas trop fort, ouais. Trop vite, quoi.
Ça aussi, parce qu'on parle d'intensité depuis tout à l'heure, Johan, mais il y a aussi le volume qu'on va mettre en place. Si jamais on est parti sur une prépa marathon sur la première partie de saison, on s'est habitué à des volumes conséquents. Là aussi, la progressivité doit être respectée. On ne va pas retourner tout de suite à ces volumes de prépa marathon dès le mois de septembre, quoi.
Ah, complètement, ouais. Mais alors, l'erreur à faire, c'est d'avoir planifié son marathon, de faire sa reprise et d'avoir que 12 semaines avant son marathon et de démarrer sa première semaine de reprise en prépa marathon. Ça, c'est interdit, hein. Ça, c'est carton rouge. Hein. Ouais. Donc, effectivement, ces trois premières semaines, elles sont hyper importantes pour monter de façon progressive, on le dit, hein, cette reprise en douceur et ces allures plutôt modérées. Et après, tu peux monter sur des volumes. Tu n'augmentes pas l'intensité, mais tu vas augmenter la durée, c'est comme ça aussi que tu peux travailler. Mais par contre, il faut être clair avec soi-même, c'est-à-dire que si tu as il faut pas ignorer les signaux du corps, tu vois, c'est-à-dire que si tu as des douleurs inhabituelles qui arrivent, c'est un avertissement. On n'est pas encore sur une blessure, mais c'est un avertissement et il faut savoir les écouter, parce que généralement en reprise, je trouve que c'est des périodes qui peuvent être piégeuses, parce que c'est là où des fois tu as le... Quand tu es en saison, des fois, par moment, tout va bien, ça roule. Tu coupes, le corps se met en off. Et pour le remettre en route, surtout chez des coureurs qui ont quand même un peu de bagage, des fois, tu as des les tendons qui couinent, les machins qui truquent. Et il faut faire attention à ces signaux-là. Donc, tant que si tu n'as pas de signaux, tant mieux, tu peux continuer. Si tu en as, peut-être ne pas monter encore le curseur du volume ni de l'intensité et de continuer à faire ce que tu as à faire sans augmenter trop fort, trop vite, quoi.
Ce qui est cool, c'est que là, on a les deux exemples qui sont représentés, parce que moi, je fonctionne en coaching individuel avec Johan. Vous fonctionnez en club, Fred et Alice. Hein. Toi, Fred, au Stade Français, Alice, chez les Zumwalt. Fred, est-ce que tu tiens compte aussi de ce qu'ont fait les athlètes pendant l'été ? Est-ce que tu vas demander la même chose à quelqu'un qui a continué à s'entretenir sans mettre trop d'intensité ?
Quelqu'un qui a fait de la rando,
ou quelqu'un
un peu de vélo.
C'est ça la question, c'est est-ce que tu personnalises les programmes en début de saison ou est-ce que tu fais un programme collectif ?
T'es obligé. Enfin, t'es obligé. Alors, tu semi-personnalises suivant la taille de ton groupe, évidemment. Hein. Ouais. Moi, j'ai la chance de pouvoir vraiment personnaliser. Effectivement, tu adaptes et je pense qu'une des clés, en fait, de la bonne reprise, c'est aussi de rapidement faire la planification de la saison. Fait, tu sais rapidement où va l'athlète et comment ça va se passer. Johan prend l'exemple de ceux qui ont des marathons d'automne. Moi, ceux qui, l'an dernier, m'ont dit, par exemple, je vais aller faire Amsterdam ou même Berlin, je leur dis, bon, dans ce cas-là, la coupure, elle arrive en mai ou le 15 juin, c'est fini. On reprend l'entraînement et parce que la prépa marathon, elle doit commencer. Ceux qui vont attaquer Valence, qui vont faire Valence, c'est mi-septembre si on est sur 12 semaines, ils ont repris début août. Ils ont repris début août. Donc, en fait, en club, une des premières tâches sur les premières séances, c'est de faire un peu l'état des lieux, de qui a fait quoi, comment ça s'est passé. Et voilà, alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres clubs, mais moi, de toute façon, je laisse un programme. Je dis, par exemple, moi, je vous recommande quand même de couper 2-3 semaines, faites d'autres activités physiques, c'est toujours bien. Lâchez aussi un peu les chevaux, niveau diététique. Enfin, voilà, faites-vous plaisir, vous êtes aussi en vacances. Mais derrière, je mets un plan de reprise et un plan d'entretien estival. Et au retour, on fait le point de qui a fait quoi, comment ça s'est organisé. Mais je sais qu'il y en a qui vont arriver au début septembre et qui reviennent tout juste de leur coupure parce que leurs vacances à eux ont été, par exemple, les 3 dernières semaines d'août.
Bah oui, c'est ça, parce qu'il y a différentes dates de vacances aussi, donc différentes dates de coupure pour les coureurs qui n'ont pas tous la même vie. Comment fonctionne chez vous, Alice, dans le club, alors ?
Non, je rejoins un peu ce que Fred dit, c'est un peu pareil, semi-personnalisé, où Nico il va essayer de faire des plans. Donc, par exemple, on avait des 600 mardi, en fonction de notre état de forme et de qui a repris quand, on ne va pas avoir le même nombre de 600 sur la séance, et pas tous non plus à la même allure. Certains auront déjà mis les carbones parce qu'ils sont en prépa, ils sont en prépa Berlin, et il y en a d'autres qui ne sont encore pas repassés en carbone parce qu'on essaie de les mettre quand on est plutôt en milieu de la prépa ou en bon état de forme. forme. Donc, mais on essaie quand même d'avoir quand même une prépa, enfin des fractions communes. Et après, en fonction de l'allure et tout, on ajuste un peu tous intelligemment selon de là où on en est et ce qu'on prépare aussi, quoi. S'il y en a qui ont besoin d'y aller un peu parce qu'ils font Berlin, ils y vont. Et s'il y en a, leur objectif, c'est le semi de Boulogne en novembre. Bon, bah, on adapte un peu les allures et on va pas à fond, quoi.
Très bonne réflexion d'Alice, Johan. Tout ce qui est super chaussures, chaussures performance, carbone et tout, ouais. Pendant toute cette période de reprise, on évite de les mettre, on est d'accord.
Exactement.
Ça n'a aucun intérêt.
Là, il n'y a pas d'intérêt. Là, vraiment, il faudrait presque courir avec les anciennes montres qui ne te donnent pas ta vitesse. C'est-à-dire, tu mets juste un chrono, les Casio de l'époque où tu as juste le chrono et tu cours avec ça. Et tu, surtout, il ne faut vraiment pas vouloir aller trop vite. Bien évidemment, tu ne mets pas les carbones parce que les carbones, c'est des chaussures de compétition, c'est des chaussures pour aller vite, ce n'est pas des chaussures du quotidien pour faire des footings de reprise en EF. Donc, moi, je sais que dans ces périodes de reprise, je ne fais que du fartlek. Je ne mets même pas les pieds sur la piste. Je fais du fartlek aux sensations, à la nature. Et ça m'arrive de même pas regarder les allures à laquelle j'ai fait mon fartlek. J'ai couru, j'ai resté tout à l'heure. Fred parlait des zones cardio. Je regarde mon cardio.
Ouais.
Mais par contre, je vais pas regarder les allures à laquelle j'ai couru et surtout parce que je sais qu'elles sont dégueulasses. Je sais que c'est nul. Je sais que ça va me démoraliser et c'est presque plus pour ça que je regarde pas parce que je sais que ça va me mettre un coup de voir que tu cours.
T'es à deux doigts de même pas publier sur Strava.
Ah non, mais
je veux pas
franchement,
voir.
Franchement, c'est presque ça des fois parce que moi je sais que mes fartleks de reprise, je les cours à 3:20, 3:15, 3:20 en étant plus avec
marathon,
des cardio, ce qui est à 15 secondes de mes 10-15 secondes de mes allures marathon.
Et c'est
frustrant, donc du coup je préfère pas regarder et effectivement ne pas savoir et faire du fartlek, faut faire du truc, enfin là on est sur la période comme on a dit avec Fred, 3 semaines post reprise, tu vois, après avoir mis tout en place les premiers protocoles de footing, mais moi ouais je fais du fartlek, je vais pas sur la piste.
3:20 au kilo, quelle honte.
Non, mais ouais.
Fait mal au cœur. Hein,
tu mets alors sur si tu vois si t'assumes pas, tu mets en contrôle, tu vois, alors que t'étais à balle.
Les gens
ils ne savent pas, tu vois.
Juste le commentaire.
C'est ça que je mets sur pour tricher un peu, tu vois. Ouais. Facile, mais c'est pas vrai du tout.
Moi je fais un truc pire, c'est que quand les allures sont trop honteuses, je mets footing à deux. Non, je plaisante. T'imagines footing de couple, tu sais, quand t'assumes pas. Non,
les réseaux sociaux.
T'es juste à la ramasse physiquement, quoi. Assume, mon vieux. Si on rentre dans le concret du renfo, parce que c'est aussi l'autre de tes spécialités, Fred, on le rappelle, hein, ton ouvrage Running Renfo, qui est vraiment l'ouvrage de référence, c'est la muscu du coureur. Vraiment, allez-y, parce qu'on t'avait reçu pour ça, l'épisode avait
super,
cartonné,
ouais.
Et le livre est super, Johan l'avait reçu. Pareil, comment tu mets en place le protocole de renfo pour la rentrée, pour la reprise ?
Alors, de la même manière que la course, en fait, c'est évidemment très progressif. Faut déjà réhabituer le corps à un certain nombre de mouvements. Alors déjà, les coureurs ne sont pas fanas de tout ce qui est muscu. Et souvent, des fois, même faire des mouvements simples de musculation vont laisser des courbatures assez importantes. Donc, pour moi, il y a une première phase qui est toujours sur, on va dire, les 3 premières semaines, là où on a juste de l'EF, où on va juste fonctionner à poids de corps. C'est-à-dire que là, pour moi, ça ne sert à rien d'aller en salle, ça ne sert à rien d'être en charge additionnelle.
Okay.
On fonctionne un peu sur du cardio-training. En plus, pour moi, on est plus en rapport finalement avec notre activité. C'est une manière de faire monter le cardio sans que ça soit de la course, sans que ça soit du fractionné et sur des durées assez courtes. Moi, j'aime bien le système du Tabata, qui est un système en renforcement qui a été inventé par un japonais. C'est sur 4 minutes, 20 secondes. Sur 4 minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Et on peut faire différents ateliers.
Ouais.
Donc, on peut enchaîner, par exemple, un atelier jambes où on aurait des air squats, c'est-à-dire des squats sans aucune charge, des fentes latérales, voire des squat jumps. Comme ça, on enchaîne sur 4 minutes. Après, un atelier bras où on enchaînera 20
ça
secondes.
Ça veut dire que tu fais les bras pendant 4 minutes avec 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Ou est-ce que tu fais tout ton... C'est comme une noria, quoi, une série, un circuit, et après, tu reprends à zéro.
Tu peux le construire comme tu veux. C'est-à-dire que sur les 4 minutes, alors, dépasse pas les 3 ateliers sur les 4 minutes. C'est-à-dire que tu tournes un peu quand même entre 3 ateliers.
Ouais.
Mais tu peux faire le même atelier sur 4 minutes. Ce n'est pas non plus généralement la norme. Mais par contre, tu peux te faire 4 minutes, par exemple, axé sur les jambes. Et ouais, tu as 2-3 ateliers qui sont uniquement jambes.
Tu fais squat, pente, voilà.
Voilà. Et un autre bras où tu vas faire des dips, du tirage avec élastique, des pompes, et un autre abdo-gainage. Enfin voilà, déjà, tu as fait 3 fois 4 minutes, ça te fait 12 minutes avec les récup. Tu auras eu la mobilité, enfin voilà, tu auras repris par une séance à 15-20 minutes. C'était déjà largement suffisant. Mmh. Honnêtement, voilà, et ça ne sert à rien de tout de suite partir, vouloir charger comme une mule. Ça, on arrive dans une deuxième phase à remettre un peu de charge, mais aussi là, de manière très progressive. Ouais. Parce que souvent, même l'athlète qui aura eu l'habitude de faire du renfo toute la saison, les premières séances de renfo, elles sont plutôt génératrices d'un certain nombre de courbatures. Enfin voilà, si la courbature est normale, quand on est en reprise d'effort, il ne faut pas non plus qu'elle dure 4-5 jours et qu'elle empêche quasiment de courir, parce que si on force trop, ça peut être le risque aussi. Donc il faut quand même préserver l'intégrité physique de l'athlète sur ces questions-là.
Et la fréquence de tes séances de renfo sur une reprise, une rentrée ?
Alors honnêtement, là, ça dépend aussi de combien de fois s'entraîne l'athlète dans la semaine. Si déjà la personne, elle court que 3-4 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal, elle va faire une séance de renfo. On va pas lui en mettre deux, même si deux, dans l'idéal, ça serait top, parce qu'on pourrait mettre un peu l'accent, comme le disait Johan tout à l'heure. C'est peut-être la période où on peut plus mettre l'accent sur le renfo, en disant vraiment, on travaille, on booste un peu en reprise. Et après, quand on est vraiment dans le cycle normal d'entraînement, on repasse à une séance par semaine. Mais voilà, pour les gens qui courraient 2-3 fois, une séance, c'est déjà pas mal.
Ok. T'en es où de ton renfo, Yodu ?
Je l'ai laissé en vacances.
Il est d'accord. Et non, il revient bientôt ou pas ?
J'ai fait ma coupure classique. Et puis là, je me suis regardé dans une glace et effectivement, je me suis dit, il faut aussi reprendre le renfo. Donc, c'est pareil. Hein. Sauf que du coup, moi, comme je suis athlète pro et que je m'entraîne 10 à 12 fois par semaine, effectivement, moi, c'est plus 2,5 séances de renfo. 3, c'est noté. Non, mais effectivement, c'est la base, surtout sur des reprises, et surtout que moi, je suis sur un objectif de reprendre par du court avec l'objectif des championnats de France de 5 km fin octobre. Donc, il va demander un gros travail de vitesse. Et donc, sur du travail comme ça, spécifique 5K, il va falloir que mon corps soit prêt à encaisser justement ces séances de VMA assez courtes mais assez intenses. Et effectivement, il va falloir que mon corps soit suffisamment solide, suffisamment gainé pour encaisser ça. Donc, ça va faire partie intégrante avec pas mal de travail de côte, des choses comme ça pour renforcer tout ça. Ouais.
On parlait de personnalisation du plan d'entraînement en fonction des objectifs de la deuxième partie de saison. C'est pareil pour le renfo. C'est-à-dire que quelqu'un comme Johan qui va partir sur du 10, du semi, est-ce que tu vas lui faire le même plan de renfo que quelqu'un qui partira sur un marathon de fin d'année ?
Évidemment non. Et ce qu'oublie souvent, on en avait parlé, mais ce qu'oublie souvent les athlètes, c'est que le renfo, la musculation, ça se planifie. Il y a des cycles, en fait, on ne travaille pas les mêmes qualités ou dans les mêmes proportions toute l'année de la même manière. Que par exemple, on va prendre un exercice un peu classique, quelqu'un qui ferait des squats, s'il squatte toute l'année à 90% de son RM, à 90% de son max, c'est bien, dans l'absolu, c'est mieux que rien. Mais c'est comme si quelqu'un faisait toute l'année, 10 fois 400 à 100% de VMA, à un moment, t'as des cycles vitesse, t'as des cycles endurance, t'as des cycles fonciers, t'as des cycles spé. Et le renfo suit cette planification-là. Et comme le disait très bien Johan, hein, la musculation, elle s'adapte à la discipline préparée. Donc là, par exemple, Johan sait très bien que sur sa musculation, il va falloir qu'il aille chercher de la force max et de la force explosive. Parce que c'est ce que va lui demander le 5 km. Ouais. L'athlète qui va plutôt être en préparation marathon, évidemment, il ne va pas totalement délaisser la force max, mais il va travailler l'endurance de force aussi pas mal parce qu'il va être sur une épreuve de durée.
Mmh. Alice, comment tu fonctionnes, toi, au niveau du renfo ?
Renfo, je ne suis pas le meilleur exemple.
je vais vous rendre visite alors, Alice, bientôt.
Ouais, Si j'en fais, c'est vraiment poids du corps. Je fais jamais de muscu, force max et tout. J'en fais pas. Après, je sais que ce serait super bien d'en faire et que ça apporte une grosse plus-value à la performance et à l'entraînement. Mais faut caser dans l'emploi du temps. Et j'avoue que je préfère aller faire un footing 40 minutes que faire du renfo. Quoi.
Et voilà.
c'est pas bien.
Le profil classique, Fred.
Ouais,
classique, je dirais pas que c'est pas bien. C'est naturel en fait. C'est assez naturel chez les athlètes. Après, c'est aussi en fonction des possibilités, des structures. Enfin, nous, au Stade français, on a une salle de musculation dédiée.
Ouais,
donc,
c'est
plus facile de dire aux athlètes, aujourd'hui, la séance, c'est la salle de muscu, elle n'est pas ailleurs. Donc, voilà, et c'est ça, en fait. Il y a aussi des facteurs qui expliquent.
Vous ne faites pas un peu, en fin de séance, Alice, de temps en temps, un peu de gainage, un peu de tout ça?
Non, on ne fait jamais. Mais ceux qui ne font pas la séance, qui viennent un peu papoter et tout, ils essaient de faire un peu gainage, quoi.
Ouais,
tout,
pour faire semblant, histoire de dire, voilà, on a fait quelque chose, quoi. Voilà.
C'est ça.
Oh, ils s'allongent sur la pelouse et on les connaît, ceux-là.
Mais y a pas... non, on n'est pas du tout sérieux là-dessus. Et en effet, comme dit Fred, on n'a pas non plus l'infrastructure pour. Donc, il faudrait que chacun y aille de son côté en salle et tout. Il y en a qui le font, mais c'est vrai que pas tout le monde. Quoi.
Sur ton plan de progressivité de renfo, avant de parler de la nutrition avec Alice, Fred, quand tu vas augmenter progressivement, c'est que tu augmentes progressivement le nombre de répétitions, le poids que tu vas soulever, un peu les deux, comment ça marche ?
Les deux. En fait, c'est un peu comme en course. En fait, ça suit le même schéma finalement. On va augmenter progressivement et de manière on va dire parallèle. Le volume et l'intensité.
Ouais.
Voilà, donc c'est clairement ça. Sachant qu'en muscu, c'est comme en course, plus on augmente le volume de l'intensité de travail, plus le nombre de répétitions diminue.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est, si je fais des 400 à 115-120% parce que je prépare un 800, j'en fais beaucoup moins que si je fais mes 400 à 100% parce que je prépare un 10 ou si je fais du double seuil, enfin voilà, par exemple.
Johan qui fait 150 au développé couché, il fait deux répétitions, quoi. Pas
oui,
plus.
Déjà, si j'en fais une, je signe.
S'il en fait une et qu'il n'est pas écrasé par la barre,
Mais Yodu, comment tu l'établis ton plan ? C'est avec ton coach ? C'est un peu tout seul vu que tu te connais ? Comment ça marche ?
Non, là, c'est plus avec mon coach. Là, pour le coup, sur toute la partie renfo, c'est plus avec lui. Mais c'est pareil, c'est comme l'a dit Fred, c'est vraiment en fonction des objectifs et de tes objectifs de saison. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne fais pas tout à fait, enfin, même pas du tout le même renfo ou la même muscu si tu prépares un 5 que si tu prépares un marathon. Et pareil, quand tu es en début de saison ou en milieu de saison ou en période d'affûtage, on met pas du tout les mêmes poids ou les mêmes charges. Après, par contre, pour tout ce qui est renfo, ça, le classique, les abdos, le gainage, le machin, les dorsaux, ça, c'est une routine quotidienne qu'il y a après des footings de récupération, des régénérations, où tu cours 45 minutes à 5 au kilo, derrière, tu te poses 10 minutes, un quart d'heure, et là, tu fais ton renfo plutôt classique, mais là, c'est des trucs plutôt simples, et ça, par contre, c'est tout au long de l'année. Malgré tout, c'est quand même ça, c'est un peu mon quotidien tout au long de l'année, mais ça varie pas, à part quand je veux varier les exos, parce qu'effectivement c'est pareil, les abdos, tu te rends vite compte qu'au bout d'un moment quand tu fais tout le temps les mêmes, tu les maîtrises tellement que tu travailles tout le temps la même zone, et ça te fait quasiment plus rien. Donc du coup, il faut aussi varier sur ces exercices là.
Là, ce que dit Johan est vachement important. C'est qu'en fait le coureur, c'est pas un spécialiste de musculation et son but, c'est pas d'aller faire une compétition, par exemple, pour du squat et soulever le plus lourd possible. Donc à un moment, quand on a des exercices qu'on maîtrise assez, plutôt que toujours augmenter la charge, on varie les exercices.
Ouais.
Parce que plus on varie les exercices, plus on multiplie les adaptations du corps. Donc c'est ça que recherche l'entraîneur.
Surtout si tu fais plusieurs séances par semaine. Ça
voilà.
Rien de
encore plus. Encore
exactement
plus,
la même séance deux fois par semaine. Quoi.
Exactement. Et toute l'année, c'est ce dont je parlais aussi. Enfin voilà, si tu as toujours les mêmes exercices toute l'année, ça ne sert pas à grand-chose en fait.
Non.
Donc Alice, c'est ton objectif. À la fin de chaque footing à partir de septembre, là, c'est un peu de renfo à chaque fois. Ok.
Ce serait bien.
Ça serait bien.
Vrai objectif.
C'est bon ça comme réponse.
Peut-être pas chaque footing, mais on peut commencer par un footing dans la semaine. Ça serait déjà bien.
Voilà, pourquoi pas. La nutrition, justement, Alice, les bons réflexes à réadopter, oui, effectivement, parce que on se laisse un peu aller un peu en vacances, peut y avoir de la consommation d'alcool, peut y avoir un peu plus de matière grasse absorbée.
Ah oui.
Mais malheureusement, il y a des objectifs qui arrivent à partir de la rentrée. Quel est le bon protocole à mettre en place là aussi? On l'a dit, c'est pas se priver drastiquement tout de suite, mais qu'est-ce que tu conseillerais déjà, les conseils principaux?
Ah, déjà, je pense, premier conseil, c'est de retrouver un cycle dans les repas, petit déjeuner, repas du midi, collation et repas du soir, parce que souvent en vacances, on va être un peu plus déréglé, on n'a pas d'heure fixe puisqu'on ne travaille pas, on se lève un peu plus tard, donc ça peut souvent finir en brunch, après gros goûter, après apéro. Donc bref, c'est un peu déréglé tout ça, et retrouver vraiment un cycle dans les repas, c'est super important pour le corps et l'organisme au niveau de la digestion, au niveau de toutes les sécrétions qu'il peut y avoir. Par rapport à ça, donc vraiment remettre en place ça en fonction de nos horaires de travail, en fonction des entraînements, pour pouvoir justement après réavoir les bons réflexes dans son alimentation au quotidien. Donc après ça passe par comme tu dis, souvent il y a eu de l'alcool un peu pendant les vacances, un peu plus que d'habitude, donc essayer de revenir sur une consommation plus raisonnable, voire peu d'alcool dans la semaine, quoi, et mettre de l'eau le plus possible. Et après, en effet, il y a souvent aussi, donc on a tendance à manger un peu plus une alimentation inflammatoire, pro-inflammatoire, on appelle ça. Donc c'est vrai que là, quand on va reprendre, essayer de revenir sur une alimentation un peu plus brute. Donc ça veut dire que c'est des produits qui ne sont pas transformés. Même maintenant, on parle d'ultra transformés parce que les industries vont de plus en plus loin dans la transformation des produits. Donc c'est manger maintenant, quand on revient chez soi et à l'entraînement, essayer de manger le plus brut possible. Donc acheter ses légumes, la carotte pas déjà cuisinée, pas déjà en sauce, etc. Et nous-mêmes le faire. Donc ça passe par là, parce que du coup ça limite l'inflammation dans le corps. Et pareil au niveau du sucre, souvent ça va être dans les produits industriels où il va y en avoir souvent qui sont ajoutés. Donc là, plus se repasser sur des desserts qui sont un peu plus simples, donc des fruits ou des compotes sans sucre ajouté, du fromage blanc, aussi augmenter un peu les oméga 3, oméga 6. Donc ça passe dans les graines oléagineuses, dans les poissons gras, dans l'avocat. Et tout ça, en fait, ça revient à dire qu'il faut consommer des produits bruts, pas prêts à l'emploi, en fait. Il faut un petit peu cuisiner derrière, quoi.
Ça, c'est le meilleur conseil, le moins de produits transformés possible, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que souvent, on va en avoir quand même plus en vacances, avec les apéros, les gâteaux salés, tout ça. Il y en a un peu plus à la consommation, quoi.
La sauce Biggie et la sauce andalouse dans mon frigo, je les jette, quoi. C'est ça.
disons que ça, c'est bien transformé comme produit.
Ouais, c'est ça. Question bête, mais souvent, on dit qu'il faut avoir un bol équilibré, une assiette équilibrée entre la protéine, entre le féculent et puis ensuite les légumes. Est-ce que pour perdre un peu de poids, j'ai 1 ou 2 kilos en trop, je vais accentuer sur les légumes, diminuer un peu les féculents pour justement me permettre de retrouver mon poids de forme?
Du coup ça dépend aussi de l'entraînement, de la phase d'entraînement dans laquelle on va être. Si c'est quelqu'un qui va reprendre bien la course à pied et tout, va pas falloir trop diminuer les apports non plus, parce que du coup ça va être des risques à perdre du poids trop rapidement et du coup être fatigué sur les entraînements. Par contre, c'est quelqu'un qui est encore vraiment dans une phase de reprise tranquille et tout, en effet on peut un peu diminuer les féculents, mais pas forcément au profit des légumes. Ça peut aussi être au profit des protéines, parce que du coup c'est ce qui va construire la masse musculaire derrière, et donc en reprise de sport la masse musculaire elle va se reconstruire, donc un peu plus de protéines ça peut être un bon combo, un bon combo aussi, quoi.
Donc la viande
après
blanche,
les féculents sont pas non plus l'ennemi du tout des sportifs, encore moins des sportifs d'endurance. Donc c'est pas non plus sur ça qu'il faut réguler, hein. S'il y a des gâteaux, des sucreries à droite à gauche, des sodas, c'est quand même plus sur ça qu'il faut aller pour perdre du poids que tout de suite taper sur les féculents, quoi.
C'est plus la chocolatine de Yodu, quoi, qu'il faut éliminer,
ouais, c'est
quoi.
Plus ça qui peut un peu peser dans la balance.
Ouais, ok. Oh non, il dit oh non. voilà, on a apporté plein de conseils. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le concret, justement, avant d'accueillir Alban, qui va nous parler de son défi. Lui, il va en perdre du poids, hein, parce qu'il va se
faire 72 marathons.
Marathon par jour pendant 72 jours. Donc, j'espère que lui a fait des réserves, parce que là, ça va être dur, surtout qu'il va dormir chez l'habitant. Oui, question concrète, et vous allez chacun rester sur votre domaine de prédilection. Yodu, pour toi déjà, ça y est, on y est, c'est la rentrée pour un coureur régulier. Quelle séance concrète tu lui conseilles pour la première, voire la deuxième semaine?
Ah bah, je l'ai dit, hein, c'est des footings en endurance fondamentale en augmentant progressivement le volume. Hein. La première fois, bah, tu pars sur 20 minutes et puis la fois d'après 25, 30, 35, 40. Et comme l'a dit Fred, tu peux faire quelques lignes droites à la fin, là, 5, 6, accélérations progressives tranquillement. Hein. Ce n'est pas des sprints, c'est des lignes droites en essayant d'être relâché. C'est le moment de travailler sa foulée, d'essayer d'être propre sur sa course pour pas se blesser. Et à la fin de ces deux semaines-là, s'il n'y a pas de pathologie, s'il n'y a pas de signal d'avertissement, tu vois, quand tu as des petites tensions musculaires, bah là, il peut commencer à aller chercher un peu plus de, comme l'a dit Fred, des allures un peu plus poussées. On parlait de d'allures de tempo, c'est ça, d'endurance active, commencer à courir un petit peu plus vite. Mais voilà, être hyper prudent sur ça. Et de pas vraiment de pas chercher et d'être hyper progressif, mais de vraiment pas chercher à pousser la machine. Ça, c'est vraiment interdit. Et presque les 15 premiers jours, honnêtement, si la personne court pas en groupe, j'ai presque envie de dire c'est presque mieux, tu vois, parce que les niveaux sont hyper différents de chacun. Il y en a qui n'ont pas coupé, on l'a dit, hein. Il y en a qui préparent telle course, telle toute course, et de ne pas se laisser embrigader, parce qu'au bout du deuxième footing, bah, ça va, et puis le pote il accélère, et puis tu veux jouer parce que tu as ton ego machin truc, ouais, et puis voilà, c'est le meilleur moyen de se blesser, c'est une erreur à ne pas faire. Donc vraiment respecter ces allures, et comme l'a dit Fred aussi tout à l'heure, ces allures d'endurance fondamentale ne sont pas les allures d'endurance fondamentale de saison quand tu es à ton pic de forme. Là, c'est vraiment il faut vraiment qu'il reste dans le contrôle, quoi.
Même chose, question concrète, Fred, la reprise progressive du renfo, quelles sont les séances que tu peux préconiser donc pour cette reprise?
Alors, pour aller un peu plus dans le détail par rapport à ce que je disais tout à l'heure, séance clé en main, hein. Tu te fais 5 minutes de mobilité, parce que c'est l'échauffement pour une séance de musculation, c'est pas aller courir, c'est pas faire du vélo, c'est pas quoi que ce soit, c'est de la mobilité. Voilà, on travaille la mobilité, on trouve plein de séances toutes faites sur les réseaux, sur la grande plateforme de partage vidéo.
Sur YouTube.
Voilà, on peut le dire, donc sur YouTube, nickel. Voilà. Après un premier Tabata, donc je rappelle le Tabata, là aussi on trouve des timers Tabata sur YouTube, donc vous le lancez et ça vous fait la musique, ça vous bipe. Voilà, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Donc un premier Tabata, axé jambes avec air squat, c'est-à-dire des squats sans charge, fente avant, alterné, un coup à droite, un coup à gauche, et ischio pont, qui est un exercice au sol pour travailler les ischios. Une minute de récup, un deuxième Tabata, axé bras, avec dips, pompe et avec un élastique de résistance, tirage horizontal. Une minute de récup et un petit tabata abdo-gainage. Alors là, je vais rester vraiment sur des gainages. La planche face, latéral droit, latéral gauche, et c'est bon. Et voilà, la rigueur, ça c'est bon. Ça nous a fait 3 fois 4, plus 5. On est proche des 20 minutes, entre 15 et 20 minutes. Et on a une bonne séance pour les 3 premières semaines de reprise.
Franchement, vous me régalez. Là, c'est vraiment la rentrée running clé en main pour vous qui nous écoutez. Là, il y a tout ce qu'il faut. C'est le mode d'emploi qui est expliqué. Alors
le 1er octobre, la saison démarre, voilà. Sur le chapeau de roue.
Voilà, je ne veux pas avoir un objectif manqué. Ce n'est pas possible. Ouais. Avec tous ces conseils, c'est dingue. Et on termine avec le concret de la nutrition. Justement, Alice, les conseils concrets que tu peux apporter, peut-être les assiettes ou les menus sur une journée à composer pour ceux qui veulent se remettre en forme.
Alors déjà, le petit-déj, ce serait bien, enfin c'est bien si on peut apporter une protéine dedans, parce que du coup, ça permet de tenir sur plus longtemps dans la matinée au niveau de la satiété. Alors que si on consomme, s'il n'y a pas de protéines dans le petit-déj, on risque d'avoir faim vers 11h, 11h30, et là, ça risque de partir en petit grignotage. Donc si on peut mettre une protéine le matin, c'est pas mal. Donc par exemple, des œufs, une tranche de jambon, un bout de fromage, du fromage blanc si on veut rester sur du sucré. On peut faire des pancakes aussi enrichis en protéines.
Ah oui, voilà,
Ouais. Pas mal. Donc on peut partir sur ça. Après le repas du midi, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de partir sur des aliments un peu plus bruts. Donc il faudrait qu'il y ait une partie féculents, une partie légumes, une partie protéines. Protéines animales ou végétales, donc là, en fonction de ce qu'on fait le midi, on peut faire l'inverse le soir. Donc par exemple, une protéine animale le midi, une protéine végétale le soir. Et là, plutôt, tout ce qui est maigre, donc les poissons maigres, ça va être les poissons blancs, ou alors la viande blanche plutôt que la viande rouge. parce que du coup, il y a moins de matière grasse dedans. Au niveau des légumes, bah, éviter que les légumes soient frits, soient dans l'huile ou autre. Donc plutôt des légumes vapeur qu'on va aromatiser avec des herbes de Provence ou du basilic, si ça va être plutôt en crudité. Après, c'est bien, moi, je trouve, d'instaurer une collation vers 16h30-17h. Après, à voir où sont les entraînements, où sont les footings. Mais ça permet quand même de réguler la journée, d'avoir une collation et d'éviter de se dire « Ah, j'ai faim à 17h » et en fait, de ne pas l'avoir anticipé. Ça peut créer des grignotages et de la culpabilité derrière. Alors que si on l'a intégré depuis tout le temps qu'on allait prendre une collation, ça permet de pouvoir l'anticiper et qu'elle soit souvent de meilleure qualité nutritionnelle que si elle n'a pas été prévue. Et aussi... Bon, je travaille beaucoup sur la culpabilité moi, avec les patients que j'ai, et c'est vrai que souvent quand les gens ont l'impression qu'ils ont faim, du coup ils mangent et ils vont culpabiliser, alors que si on l'a intégré depuis toujours qu'il y avait une collation, il n'y a pas cette culpabilité.
Et tu mets quoi dedans, Alice, dans la
collation? Du coup là, ce sera plutôt un fruit, un petit yaourt nature, des graines oléagineuses. Je pense que c'est pas mal d'en consommer, parce qu'au niveau du rapport oméga 3, oméga 6, ça permet d'en avoir dans l'organisme et de bonne qualité. C'est des lipides qui sont de bonne qualité, donc c'est pas mal. Après, on peut partir aussi sur un carré de chocolat noir, si ça fait plaisir, cool. Une compote, enfin voilà. Donc ça pour la collation, ouais, avec un fruit. Et puis le soir, un peu comme le midi, mais on peut prendre un peu moins de féculents s'il y a pas de footing le lendemain à jeun ou le lendemain dans la matinée, quoi. On peut diminuer un peu les féculents et augmenter un peu légumes et protéines.
Et sur l'hydratation, la règle de base, c'est combien de litres d'eau par jour?
Alors, règle de base, on dit 1,5 litre minimum, mais c'est sûr que quelqu'un qui fait du sport, on peut monter facilement à 2 litres. Et en vrai, il n'y a pas trop de limites. Hein. Faut boire, surtout, bon là, retour de vacances, reprise et tout. Si on veut drainer l'organisme, éliminer les toxines, les déchets qui ont été accumulés, on peut y aller sur l'hydratation. Hydratation, je parle vraiment de l'eau et des infusions, parce que tout ce qui est thé, café, ça, c'est pas considéré non plus comme de l'hydratation pure.
À chaque fois que tu parles, je me dis il y a un paquet de trucs que je dois éliminer quand même.
Alors l'idée c'est pas d'être drastique non plus complètement dans l'alimentation et de se priver de plein de trucs. Hein, mais
ok. Mais voilà. Donc la limonade que j'ai face à Fred, je la jette quoi. C'est ça.
Faut voir s'il y a du sucre dedans quoi. Il faut regarder la composition.
À ton avis, il y a du sucre là-dedans, Fred, ou pas?
Ah non. Je préfère pas me prononcer.
C'est ça. Une limonade artisanale, à mon avis, ouais, le sucre, c'est pire que.
Surtout qu'en plus, là, c'est de la limonade. S'il n'y a rien à manger avec, ça veut vraiment dire que le sucre, il est absorbé directement et ça fait un pic d'insuline dans l'organisme.
Donc là, faudrait limiter. Il doit bien avoir des Kit Kat.
Il va aller chercher à manger, là.
Pardon, Alice, je m'excuse. Pardon.
C'est plus pour toi que pour moi. Hein.
Non, mais vous avez été excellent, merci beaucoup. Et on a tous les conseils donc, pour réussir sa rentrée.
Et on voulait mettre en avant aujourd'hui un défi hors norme que prépare un ami d'RMC Running, c'est Alban Pellegrin qui est avec nous. Salut Alban.
Salut, bonjour à tous.
Et ouais, on en connaît des dingos, mais tu en fais partie désormais avec ce défi que tu te lances qui démarrera le 1er septembre. Cette idée de parcourir la France à pied, un marathon par jour pendant plus de 70 jours, 3000 km à parcourir pour rejoindre les 4 points cardinaux de la France. Comment on a une telle idée déjà? Comment ça marche dans ta tête pour te dire je vais tenter ça quoi?
Comment est-ce qu'on a une telle idée? On a eu la chance de vivre des aventures, que ce soit Koh-Lanta, que ce soit mes documentaires en Thaïlande ou au Sénégal, et surtout quand on a goûté à la course à pied, parce que ces derniers temps, j'ai quand même eu la chance de manger beaucoup de marathons, de trails ou autres, on a envie de créer sa propre aventure. Donc c'est vrai que tu parles de défi, mais je trouve que moi, c'est plus une aventure qu'un défi, parce que ce que tu as oublié de préciser, c'est dans ces 72 marathons en 72 jours, la spécificité, c'est que le soir, je ne sais pas où je dors, donc je vais taper à la porte des gens, et c'est eux qui vont m'accueillir, qui vont m'héberger. C'est pour ça que ça s'appelle « Je cours chez vous ». Voilà. C'est qu'il y a un côté surtout humain, aventure, plus que le défi, parce qu'au final, c'est ce que je dis, même s'il y a un moment, les genoux ou les mollets vont fatiguer un petit peu, si je dois mettre 80 jours, ça ne sera pas très grave.
Oui, c'est ça. C'est que tu ne te fixes pas d'objectif de performance. L'idée, c'est surtout l'aventure humaine que tu vas vivre. Et c'est toute cette histoire à raconter d'aller dormir chez l'habitant. Tu sais, nous, chez RMC, on diffuse « J'irai dormir chez vous ». Donc, c'est un peu le même concept.
Exactement.
Comment ça se passe, l'orga, la logistique? Est-ce que tu as une équipe avec toi? Comment on va t'aider, justement, à trouver, à savoir à quelle porte il faut frapper pour aller se reposer quelques heures, d'ailleurs?
Alors, the plan is no plan, hein, comme diraient nos amis américains. Ouais. C'est qu'effectivement, le but, c'est que je sais à peu près à chaque fois où je pars et où j'arrive. avec à peu près le nombre d'habitants qu'il y a dans les petits villes, villages où je suis censé m'arrêter pour faire à peu près mon marathon par jour. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment d'assistance, je n'ai pas vraiment de plan et je suis totalement confiant sur la gentillesse et la bienveillance des gens. Donc, ça se trouve, il y a des soirs où je dormirai dans la rue, mais je suis persuadé qu'avec un sourire, beaucoup de bonhomie et de bienveillance, un jour ou l'autre, on va m'ouvrir. Enfin, pas un jour ou l'autre, 72 jours d'affilée, ouais. Il va falloir qu'on m'ouvre. Donc non, là-dessus, je suis assez confiant. Et effectivement, quand même, tous les 10 jours, j'ai une assistance pour changer juste déjà vêtements, chaussures principalement, parce qu'une chaussure, moi, c'est Salomon qui va me suivre avec ouais. la gravelle. Donc, elle va changer à peu près toutes les 400-500 kilomètres. Okay. Et puis, avec moi, je prends le moins de choses possible. Donc, je prends pas plus de 500 millilitres, enfin, pas plus d'un litre, pardon, deux flasques de 500 millilitres, trois t-shirts, deux caleçons, trois shorts, un vêtement de pluie et c'est tout.
Ouais. T'étais en manque de Koh Lanta, quoi. Tu t'es dit, il manque un truc, il faut que je me relance sur un défi aussi difficile, quoi.
Bah, oui et non. Je sais que là, je suis en manque d'aventure et c'est surtout, en fait, je suis persuadé que c'est les gens qui vont m'apporter ouais. tout ce dont j'ai besoin. Et je trouve que c'est ça aujourd'hui la plus grande force. C'est ce qu'on manque. Aujourd'hui, il y a quand même une atmosphère un peu tendue. Et je suis persuadé que si on remet à nouveau l'homme avec un grand H au milieu de tout ça, c'est ce qui va démontrer qu'on peut le faire. On peut mettre de l'extra dans l'ordinaire. Ça reste en France. Ça reste les quatre points cardinaux de la France. Ouais. Ça va être une aventure et surtout des paysages incroyables et surtout beaucoup de rencontres. Et le tout pour la Fondation du Souffle. Parce c'est que ça. C'est vrai qu'on ne fait pas ça juste comme ça. C'est une aventure.
Il y a une cause toujours... derrière tout ça. Ouais.
Exactement. C'est une aventure qui nous touche. Moi, j'ai perdu ma maman d'un cancer du poumon il y a 2 ans. Mm-hmm. Et on avait l'habitude de marcher beaucoup. Donc ça s'appelle Je cours chez vous, mais je ne vais pas faire que courir parce que physiquement, ça serait trop compliqué. Je vais aussi trottiner, je vais aussi marcher. Mais le but, voilà, c'est de mettre en avant la Fondation du Souffle, de parler de toutes les maladies respiratoires, parce qu'il n'y a pas que le cancer du poumon. Et souvent, malheureusement, quand on a un cancer du poumon, c'est que c'est compliqué. Derrière, il y a pour la recherche ou autre. Donc voilà, c'est aussi l'asthme, c'est aussi tout ce qu'on peut mettre en avant. Et je ne serai pas tout seul, parce que de temps en temps, il y aura aussi un pneumologue qui va courir avec moi. Il y aura quelques guests, ça on le dira, okay. on le dira après. Ouais. Et voilà, le but, c'est de vivre une aventure humaine, et j'aime à dire que je suis le personnage secondaire de cette aventure.
Alors j'imagine que tout ça sera raconté en temps réel quasiment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut t'accompagner sur certains jours de course d'ailleurs ?
Exactement. En fait, ce qui est incroyable depuis que j'ai annoncé ça, c'est la vague de messages et de bienveillance que j'ai déjà reçue. Ah c'est ouais. pour ça que j'aime à la mettre en avant, de gens qui disent « Viens dormir chez moi, est-ce qu'on peut courir avec toi ?» Donc c'est vrai que pour l'instant, on cache un petit peu le parcours, ouais. parce que le but, c'est que si les gens m'invitent chez eux, c'est un peu triché, entre guillemets.
Oui,
donc voilà, le but, c'est de taper à une porte de gens qui ne m'attendent pas. Ouais. Et si vraiment un jour je suis dans la panade, on fera peut-être appel aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que de temps en temps, on est en train de voir de pourquoi pas ouvrir via Strava ouais. des petits runs pour que les gens puissent passer. Et surtout, j'ai une date qui est censée être importante qu'on communiquera quand je passerai à Lyon, ma ville. Hein, je suis
bien sûr.
Et
bien
là, on fera un beau running club avec Salomon et j'espère qu'on aura en mode Forrest Gump qu'on ira se laisser porter dans ma belle ville.
La distance estimée, c'est à peu près 740-750 km. Pareil, le dénivelé positif attendu, c'est 6400 mètres de dénivelé. Comment tu as tracé le parcours justement pour rejoindre les points cardinaux sans dévoiler trop de secrets? Comment tu t'es organisé?
De manière très simple, il y a une application incroyable qui s'appelle Strava. C'est-à-dire que j'ai.
Tout simplement. T'as mis un autre point, puis c'est réglé.
À peu près. Enfin, je veux dire, si on devait résumer ça, effectivement, de manière très rapide, c'est à peu près ça. Et ensuite, on ajuste en fonction d'éviter le plus possible des départementales, parce que forcément, ça veut dire que je vais aussi en courir un petit peu à côté. Mais on regarde les quatre points cardinaux de la France. On regarde le point cardinal le plus au nord, qui est vers la pointe franco-belge, mm-hmm. pour aller au point cardinal le plus à l'ouest, qui est la pointe bretonne. Ensuite, et c'est là où, c'est ce que tu cites, ça va piquer un petit peu. La pointe cardinale le plus au sud, c'est vers la frontière franco-espagnole, donc je vais passer par les Pyrénées. Là, ça va piquer. Okay. Et ensuite, je remonte vers le point cardinal le plus à l'est, qui est vers la frontière franco-luxembourgeoise, et j'ai la chance de passer par Lyon. Donc voilà à peu près le tracé. C'est à vol de. C'est plus à vol d'oiseau, c'est à vol de Strava.
Voilà, c'est ça. C'est plus simple pour tracer le parcours. Comment on se prépare physiquement pour un tel défi? Tu as pas mal couru, tu as fait le marathon du Mont Blanc, tu m'en parlais juste avant, tu as participé à l'événement UTMB cette semaine. Tu arrives prêt, tu as accumulé les kilomètres. Comment tu t'es organisé?
Ben, on mange des kilomètres. Là, j'en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui me manquait d'ailleurs dans ma préparation, parce que j'ai mon coach, c'est aussi mon kiné, qui me suit depuis maintenant 2 ans. J'ai enchaîné les marathons. J'ai eu la chance de faire moins de 3 heures au marathon de Paris. Donc, c'est vrai que comment est-ce qu'on se prépare ? Ben, en bornant et surtout en testant un sport que je ne maîtrisais pas trop, le vélo. Parce qu'en fait, le vélo, ça va travailler des muscles de résistance que je n'avais pas forcément. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé un défi il n'y a pas longtemps, vu que j'avais la chance d'être invité dans le Sud. Ben, j'ai fait Lyon-Saint-Tropez à vélo. Voilà. Okay. Et pour me rajouter une difficulté, j'ai pris le vélo de mon grand-père des années 70 avec uniquement 4 plateaux. Donc voilà, c'est mon côté un petit peu sadomaso gentil qui aime souffrir et qui prépare mon corps à de la difficulté, à de la dureté et surtout à de la répétition. Voilà.
On vous l'a dit, il faut être un peu fou, il faut être aventurier pour tenter un tel défi. C'est vrai que ça se démocratise, Alban, le type de défi comme celui-là. On a notre ami Duncan Perilla qui avait aussi tenté un défi sur 30 jours de Tour de France, le tour des marchés. Ça s'est mal passé, malheureusement, il s'est blessé assez rapidement. Est-ce que c'est un scénario que tu as envisagé ? Est-ce que tu as un plan B dans ce cas-là ? Si jamais tu as une blessure musculaire ou physique, un traumatisme, comment tu vas t'adapter alors ?
Ben, mon meilleur des plans B, c'est de pas en avoir, en fait.
Bah, pour l'instant, tu ne prévois pas, ouais.
C'est ça, c'est que je me laisse porter. Et en fait, j'essaie de ne pas anticiper ce genre de choses parce que je pense que ça amène de la peur.
Ouais, d'accord.
Et là, je fais confiance à tous ceux qui m'entourent, c'est-à-dire que depuis 2 ans et demi maintenant, je cours beaucoup. J'ai mon coach, j'ai mon kiné, j'ai aussi mon agent, j'ai aussi M. Ton Kiné que vous connaissez qui va me suivre et qui va faire un IRM de mon corps juste avant pour voir comment est-ce que le corps après 72 marathons réagit.
Ah ouais.
Donc j'ai la chance en fait grâce aux réseaux sociaux, parce que moi je mets toujours en avant les réseaux sociaux, on peut les critiquer un petit peu, mais c'est des rencontres, c'est beaucoup d'échanges. Donc c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, je pense que je vais avoir une bienveillance et plein de conseils. J'ai aussi mon partenaire nutrition MX3 qui me met à disposition une nutritionniste qui va me suivre parce que forcément ce que je vais manger ben, ça va dépendre de ce que les gens me font manger le soir.
Ouais.
Donc ça aussi ça va compter. Donc voilà, c'est une multitude de choses. Le mari de ma nutritionniste est podologue. Donc en fait voilà, j'ai totalement confiance en la bienveillance des gens et que si un jour j'ai un besoin, ben un petit peu comme Mathieu Blanchard quand il était dans son défi fou et qu'il a dit est-ce que j'ai un pneumologue dans mes contacts, et ben je suis persuadé que ensemble on va beaucoup plus loin. Voilà.
Tout est prêt, tout est organisé, toi aussi tu es prêt mentalement, physiquement. Donc écoute, on te souhaite un magnifique
c'est
défi.
Gentil.
Suivez Alban sur les réseaux, hein, sur Instagram, sur Strava notamment, parce que c'est là que ça va se passer.
Exactement.
Ce marathon par jour pendant 72 jours, le Tour de France à travers les 4 points cardinaux. Voilà, un défi qu'on va suivre et on t'accueillera à la fin de ton défi. On espère que tout se passera bien, Alban. Et n'hésite pas, d'ailleurs, je passe un message à toute la communauté RMC Running. Si vous constatez qu'Alban passe dans votre région, dans votre ville ou à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller partager quelques kilomètres avec lui lui proposer comme ça le souper et la nuit, comme ça
ou
peut l'aider.
Ou même de me porter si nécessaire.
Ou le porter, pourquoi pas.
Merci Alban, magnifique défi. Donc on va suivre sur RMC Running et tout de suite on passe au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
On vous l'a dit aujourd'hui en cette rentrée RMC Running, on convoque tous les amis. Évidemment, le TRC est présent avec Charles Perrault. Salut Charles.
Salut Benoît, ça va ?
Ça va et toi ?
Très très bien.
Bon, là on a tous les gros clubs présents sur Paris qui sont là. Il y a le Stade Français, les Zumwalt Runner, il y a le TRC.
Il y a toute la région parisienne est cadrée.
Là, toutes les courses, les 10K, les semis et tout de parisiens, là, tous les satellites sont remplis avec nos invités aujourd'hui. Charles, on est content de te recevoir déjà parce que forcément, on va mener pas mal d'opérations ensemble, hein, comme d'habitude. Ça avait bien fonctionné la saison dernière, on va continuer cette saison. Et puis, on voulait mettre en avant l'OP que tu mets en place avec New Balance. Est-ce que tu peux nous le raconter, le Speed Tour, ce Tour de France pour faire découvrir les nouveaux modèles élites de New Balance?
Bah, comme tu l'as indiqué dans le podcast aujourd'hui, c'est la rentrée. Beaucoup de gens vont reprendre et se définir leurs objectifs. Donc, avec New Balance, on a décidé d'aller à la rencontre des coureurs pour leur faire tester les dernières innovations de la marque. On aura des sessions le matin axées plutôt sur la performance avec un test de la SC Elite version 5. Mmh. On fera un test sur 5 km avec pour certains objectifs de battre leur record, parce qu'on aura des parcours assez plats dans des magnifiques parcs dans toute la France. Et bien entendu, qui dit TRC dit des pacers, donc on mettra plusieurs meneurs d'allure sur ces sessions d'entraînement pour accompagner les coureurs. Et l'après-midi, on aura 3 autres sessions plus cool pour ceux qui veulent juste tester les produits, donc ça sera plutôt axé sur la Rebel 5. Où là, on fera avec des coachs des sessions d'une heure où on pourra tester avec quelques petites accélérations et un petit footing tranquille, tout ça. Donc on va dans différentes villes de France. On commence la semaine prochaine par Lyon et Marseille.
Ouais,
ensuite,
c'est un beau
on
programme.
Va à Bordeaux et à Nantes. Et on finit par Paris et Lille.
Je vous donne toutes les dates d'ailleurs. Le 30 août, c'est Lyon. Le 31, c'est Marseille. Le 6 septembre, c'est Nantes. Le 7, c'est à Bordeaux. Le 13, à Paris. Le 14, à Lille. Le nombre de places est limité. C'est important de le dire, Charles. Donc, il faut vite s'inscrire.
Exactement.
Pour participer aux différentes sessions. Puis, c'est toujours un moment sympa de participer à ces runs communautaires, en fait, hein, au-delà du test de la chaussure.
Oui, tout à fait. En gros, déjà, ça permet de se rassembler, de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, on aura des petits cadeaux, bien entendu. Hein. Chaque participant repartira avec un magnifique t-shirt New Balance. On fera gagner des paires, bien entendu. Mmh. Et il y aura des petits dossards, notamment des courses qui sont souvent assez motivantes, notamment le semi-marathon de Boulogne ou Marseille-Cassis, qui sont souvent sold out. Bah, comme on travaille avec New Balance sur ces courses-là, bah, il y aura des petits dossards à gagner sur ces différentes sessions.
Donc n'hésitez pas, vous allez sur les comptes du TRC, sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous inscrire pour le Speed Tour, si jamais ça passe à côté de chez vous. Place limitée, c'est combien de personnes maximum alors, Charles ?
Alors on a des sessions de 40 personnes à chaque fois, pour que ça soit assez qualitatif.
Okay.
Donc c'est des sessions de 40 personnes à chaque fois, donc 3 sessions le matin, 3 sessions l'après-midi.
Ça marche. Je t'envoie pas Yodu, il est hors de forme. Mais sinon.
il est plutôt en train de boire des cocktails.
Voilà. Il a fait une raclette hier. Moi, je m'en remets pas. La raclette le 20 août.
C'est n'importe quoi.
Non, c'est fou.
Il n'y a plus rien qui va. C'est la déchirante.
Bon, merci Charles. Et je te remercie parce que grâce à toi et New Balance, on met d'ailleurs en jeu dans RMC Running pour la communauté une paire élite de New Balance, la SV Elite version 5. Donc, si vous voulez participer, vous allez sur nos réseaux, sur Instagram notamment. Tout sera expliqué. Mais vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner cette chaussure qualité. Merci Charles, à bientôt, je t'embrasse.
Avec merci plaisir, Charles. Bonne journée.
Bye bye. Un grand merci à Fred Bellouz qui est venu.
Bah, merci à toi.
Je vous rappelle l'ouvrage de référence Running Renfo. Yodu vous l'a certifié, c'est vraiment le livre à avoir chez soi si on veut, comme Alice Michel, démarrer le
Renfo. Voilà, c'est ça. Pour les débutants qui ne savent pas quoi faire, il y a tout dans le livre.
C'est ça. Merci Fred, merci Alice. Bonne fin de séjour à Font-Romeu. Tu repasseras rapidement dans les locaux d'RMC Running quand tu seras de retour sur Paris. Et un grand merci au maître Yodu également.
Merci à tous.
Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut.
RMC Running.